Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe à Rome au 1er siècle après Jésus-Christ. Pendant que dans les rues étroites, quelques 800 000 habitants fourmillent, se serrent et se bousculent, au palais, le prince Néron a un nouveau précepteur. Il a 12 ans et sa mère a choisi de confier son éducation au célèbre Sénèque. Le philosophe élève l'adolescent, l'instruit, lui enseigne l'éloquence et la grammaire. Néron est plutôt bon élève. À l'âge de 17 ans, il impressionne déjà les sénateurs par sa verve d'orateur. Et au début de son règne, le jeune prince, toujours sous la coupe de son précepteur, est sage, discipliné, il écoute et obéit. Puis vient sa période rebelle. Et contrairement aux ados d'aujourd'hui, sa crise ne consiste pas à se droguer et à sortir toute la nuit. Le jeune Néron, pour marquer sa révolte, fait assassiner son demi-frère, sa mère et son ancienne épouse. Le vieux professeur, atterré, décide alors de prendre sa retraite et de se consacrer à la philosophie. Quelques années plus tard cependant, des opposants forment un complot pour assassiner Néron. Les conjurés trahis puis capturés dénoncent Sénèque. Le vieillard a beau clamer son innocence, l'histoire dit que Néron se met à le haïr et lui ordonne de se couper les veines, ce qu'il fait, comme à son habitude, stoïquement. Aujourd'hui dans les pieds sur terre, des élèves maltraités par leurs professeurs et les professeurs malmenés par leurs élèves, c'est l'envers de notre série « On a tous un prof dans le cœur ». Pour marquer cette rentrée scolaire, deux histoires d'aujourd'hui en miroir, racontées par Delphine Saltel.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Mon histoire commence quand j'avais 6 ans. J'étais au CP. J'étais une petite fille assez réservée, je crois. J'étais pas mal dans mon coin. Mais paradoxalement, j'étais assez nerveuse aussi. Donc il se trouve que cette année-là, ma mère et moi, on a déménagé. Elle avait obtenu du coup que je reste dans cette même école qui était accolée à mon école maternelle. Et du coup, ça me faisait faire un trajet plus long, en métro, avec un changement. Du coup, moi, j'étais un peu livrée à moi-même dans les transports en commun. Je dirais pas que j'avais peur, mais j'étais pas tranquille. Je me souviens que j'étais jamais tranquille. J'étais toujours un peu sur le qui-vive. Je me souviens que j'arrivais souvent juste à l'heure. Et ça, c'était aussi une source de stress importante. Du coup, oui, j'arrivais en classe assez fatiguée, je pense, nerveuse. J'avais du mal à tenir en place sur ma chaise. Enfin, j'avais des tics nerveux au niveau des jambes, comme si j'étais un peu, comme si j'avais des ressorts en fait sous les talons, quoi. Alors, et j'essayais de me contenir, mais ça ne marchait pas longtemps en fait, parce que je m'oubliais et ça revenait aussi sec. Et je ne sais pas pourquoi, ça exaspérait mon institutrice. Qui s'appelait Madame Mamou. Alors, ce n'était pas spécialement bruyant, mais peut-être que ça a attiré le regard de mon institutrice, qui n'aimait pas ça. Elle me disait que ça l'agaçait. Je me souviens juste de ce sentiment d'agacement, en fait. Alors, et moi, je me souviens que j'étais exaspérée par moi-même parce que je n'arrivais pas à me contrôler. Et du coup, elle avait l'impression que je le faisais exprès. Madame Mamou, c'était plutôt une institutrice vieille école, quoi, à l'ancienne. Elle était adepte du coup de règle sur les doigts, par exemple, quand elle considérait qu'on se comportait mal. Elle avait un physique assez doux. Elle avait des grandes lunettes. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense à une oie quand je repense à elle. La cinquantaine. Et oui, dans mon souvenir, elle était assez douce, voilà, bizarrement. Par rapport à d'autres institutrices que j'ai eues qui étaient beaucoup plus nerveuses, beaucoup plus colériques, elle avait l'air plutôt avenant, quoi. Mais je me souviens que j'avais la pression. J'avais peur de pas comprendre. Je sentais bien qu'il y avait une différence de classe sociale, niveau social, même si je l'exprimais pas comme ça, entre moi et les autres enfants. C'était plutôt une école, voilà, dans un quartier bourgeois, avec des enfants de médecins, de juristes. Quand ils partaient en vacances, ils revenaient, ils me parlaient du ski, des choses comme ça. Et moi, j'avais pas du tout d'activité. C'est le loisir que j'avais, c'était de regarder la télé. J'avais le sentiment d'être à part. Notamment voilà à cause de mes origines, enfin dû à mes origines, j'avais conscience d'être différente. Je savais pas encore pourquoi, mais j'avais conscience que ça se passait au niveau de ma peau, au niveau de mes cheveux, au niveau d'une apparence qui ressemblait pas à l'apparence des autres enfants en fait, et que c'était encore plus important du coup pour moi de pas me faire remarquer, puisque même si je faisais rien, j'étais déjà un élément identifiable. Donc, disons que j'avais à cœur de ne pas me faire remarquer, mais c'est, notamment pour ce geste qui est récurrent au niveau des jambes, c'était pas facile, c'était pas évident. Donc, un jour que ça devait être peut-être particulièrement agaçant pour elle, ce tic que j'avais, je l'ai vu se diriger vers un des placards de la classe. Elle en a sorti un objet que j'ai pas tout de suite identifié, et elle s'est dirigée vers moi, et en fait elle s'est agenouillée près de mes jambes, et je me souviens que c'était bizarre de la voir dans cette position, et que j'avais été très impressionnée dans un premier temps, et que je faisais même pas forcément attention à ce qu'elle faisait, mais que c'était déjà très impressionnant de la voir très près de moi. J'ai compris que ce qu'elle avait pris dans l'armoire, c'était une pelote de laine qu'elle était en train d'enrouler autour de mes jambes pour les attacher à la chaise, jusqu'à que je sois complètement saucissonnée et que je puisse plus bouger, ce qui était le but de cette manœuvre. C'était pas du tout une option dans ma tête de me débattre. Je l'ai laissé faire. Du coup, il y a eu un peu de chahut dans la classe. Il y avait une atmosphère de moquerie, quoi, autour de ça. C'est genre le bonnet d'âne, quoi. Et je me souviens que j'avais peur qu'elle m'attache d'autres trucs, les bras, et du coup, je bougeais plus du tout. Là, pour le coup, j'arrivais très bien à me concentrer pour ne pas bouger. Parce que j'avais peur d'être attachée à tout le corps, quoi. Et j'avais les mains sur mon bureau, et je bougeais plus, j'étais fixe. Et je la regardais, j'entendais rien de ce qu'elle disait. Mais pour le coup, je bougeais plus. Je me souviens que je me disais que j'étais tellement compliquée comme enfant, qu'on était obligé de venir à ces extrémités-là. En fait, ce que je me disais, c'est que je le méritais. J'étais très surprise, et en même temps, je me suis dit, si c'est l'institutrice qui fait ça, c'est que c'est normal. J'en ai pas parlé à ma mère, parce que j'étais persuadée qu'elle donnerait raison à mon institutrice. Et surtout, je voulais pas que ma mère pense que je m'étais mal comportée. Ça m'a juste rendue encore un peu plus névrosée. Et encore un peu plus obsédée par le fait que je correspondais pas à ce qu'on attendait de moi. Voilà. Donc, une fois que j'étais attachée, en fait, j'osais vraiment plus rien faire, plus rien demander, plus rien, limite pas exister, quoi. Bah du coup, les fois d'après, comme je pouvais pas bouger mes jambes et que c'est pas que j'étais habituée, mais que j'étais moins sous le choc de la première fois. Je me suis mis à ronger mes ongles. Donc, j'ai passé une bonne partie de sa classe à être terrorisée par la menace ou par l'acte déjà d'être attachée. Enfin, en tout cas, l'inconfort d'être attachée, quoi. Du coup, j'étais encore moins concentrée que j'étais vraiment focalisée sur le fait d'être attachée, Et une fois, j'avais très envie d'aller faire pipi. Et je me suis dit que je pourrais me retenir jusqu'à la prochaine sonnerie. Et sauf que voilà, c'était très long. Bah, je me souviens que c'était trop douloureux, en fait. J'ai l'impression que j'allais exploser. J'avais pas assez de force mentale à cette époque pour me retenir plus. Et malgré moi, je me suis oubliée. Et du coup, j'ai fait sur moi. Peut-être c'était la fois où après, elle a pas recommencé. C'était plus contraignant pour elle d'avoir à nettoyer du pipi que juste de me voir agiter ma jambe. Je me dis que c'est bien fait pour cette institutrice qui pensait pouvoir contrôler son univers avec une pelote de laine et une chaise, mais qui peut pas contrôler tout ce qui se passe quoi autour d'elle. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué à ce moment-là. Moi, j'avais l'impression de pas avoir droit à l'erreur, en fait. Si j'étais pas irréprochable, je méritais pas l'attention qu'on pouvait m'accorder, le soin qu'on pouvait me donner. Et comme j'étais pas du tout irréprochable, j'étais une petite fille, bah oui, c'est resté ancré dans ma tête, quoi. C'est jamais tombé dans l'oubli, complètement. C'est sûr que c'était pas les meilleures conditions pour apprendre dans la sérénité. Peut-être ça a conditionné mon rapport à la lecture aussi, parce que j'ai toujours eu ce rapport d'attirance et répulsion en même temps, en fait, pour la lecture, pour apprendre, pour l'école en général, en fait. Pendant très longtemps, par exemple, si je comprenais pas, je rejetais le truc en bloc. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'étais à la hauteur de faire des efforts et de me donner la peine, en fait, de me donner la peine de comprendre. Et je pense que c'est seulement à la fac, et d'ailleurs pas la première fois, parce que quand j'ai repris mes études à la fac, que j'ai compris ce truc-là, c'est-à-dire quand même très tardivement, et que ça m'a quand même pas mal porté préjudice pendant beaucoup d'années.
Moi, j'ai fait un parcours de bonne élève très classique, très bon lycée, très bonne prépa, grande école de commerce. J'ai vraiment toujours été heureuse à l'école. En primaire, j'étais vraiment, je pense, j'étais carrément faillotte. J'adorais mes maîtresses, j'adorais l'école. Mon amoureux, il était aussi premier de la classe et comme on avait tous les deux 20 sur 20 pour comparer, on comptait lequel avait plus de rayons autour du soleil que la maîtresse avait dessiné sur la copie. Donc, c'était vraiment fan club numéro 1 de l'école, quoi. Et après, collège, lycée, prépa, là, je restais la bonne élève, très bonne élève même, mais toujours déléguée, investie. Donc, moins le côté faillotte, mais toujours le côté heureuse d'être là. Globalement, on peut dire vraiment un parcours d'élève qui était super heureuse de tout ce qu'elle a fait, quoi. Donc, si on déroulait la suite, logiquement, j'aurais dû finir en conseil ou en start-up, comme le font beaucoup de mes potes de promo aujourd'hui. Mais en fait, je me suis assez vite rendu compte vers la fin de mes études et au tout début de la vie professionnelle que c'était pas ça qui me faisait rêver. Et j'ai commencé du coup à repenser à une idée qui avait commencé à me trotter dans la tête vers la fin de mes études, qui était l'idée d'enseigner. Je me disais que c'était vraiment le plus beau métier qui soit, un des plus beaux en tout cas. C'est vrai que, en fait, ayant toujours pris énormément de plaisir moi-même à l'école en tant qu'élève, je pense que voilà, il y a le côté rêve de gosse de devenir prof, et puis il y a le côté aussi, bon, il y a un moment, il va falloir rendre tout ce que j'ai reçu. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée, bah, finalement prof de français et latin dans un collège de REP+, dans une cité à Saint-Denis. REP+, c'est les réseaux d'éducation prioritaire niveau plus, c'est l'ancienne ZEP. Voilà. Les affectations étaient censées tomber en juillet précédant la rentrée. Et quand on m'a annoncé là où j'étais, on m'a dit « Prépare-toi, ça va être vraiment musclé. C'est une REP+, c'est vénère. » Mais bon, voilà, au moins, tu as eu ce que tu voulais en termes de poste. Donc moi, j'étais un peu dans l'expectative. Je n'ai jamais mis les pieds dans une cité en France. Autant j'ai un peu bourlingué à l'étranger, autant en France, je viens de ma petite banlieue riche. Donc ça sert à rien que je me fasse des films, je sais pas du tout dans quoi je vais tomber, je sais juste que je vais être un peu secouée. Et comme par ailleurs bah, tout va bien dans ma vie, je me sentais prête à me faire secouer. On m'avait beaucoup dit faut rien lâcher, faut avoir l'air sévère, en plus je suis une femme, je suis jeune, je souris beaucoup naturellement, donc fallait un peu forcer le naturel. Mais du coup ouais, trouver ma posture de prof, clairement c'était la grosse question au début de l'année. Et avec ma classe de 5e, dès le début, je pense, j'ai senti que c'était compliqué. C'est une classe qui n'est pas spécialement travailleuse, donc clairement, on fait cours et ils n'ont pas envie d'être là. Dans laquelle il y a 3, 4, 5 fortes têtes qui, très régulièrement, voire tout le temps, viennent perturber le cours, dont peut-être un particulièrement qui m'a le plus causé de soucis cette année-là, qui s'appelle Amir, et qui vraiment en profitait régulièrement pendant mes cours pour se lever, crier, insulter ou taper ses camarades, et juste faire n'importe quoi. Donc les semaines passaient et les relations avec cet Amir ne s'amélioraient pas, et avec le reste de la classe non plus. Et tout ça, ça nous amène en plein cœur de l'hiver, juste avant les vacances de février. Donc la semaine avant les vacances, c'est toujours l'horreur, les élèves veulent plus travailler, ils sont crevés, les profs aussi, tout le monde a envie d'être ailleurs. Et là, on finissait une séquence de cours sur le voyage et plus particulièrement le thème de l'île déserte. Donc en plus je m'étais pas mal donnée pour cette séquence, je leur avais préparé un petit carnet de voyage où ils devaient décrire leurs différentes émotions au fur et à mesure des séances, on avait regardé des extraits de films. Donc voilà, j'avais vraiment essayé de leur faire des contenus un peu sympas pour qu'ils raccrochent. Mais ça restait super compliqué, c'est-à-dire que par exemple je montrais un extrait de film et après pendant les 4 semaines derrière, « Et madame, pourquoi on finit pas le film ? Pourquoi on finit pas le film ? Pourquoi on finit pas le film ?» Donc voilà, toujours compliqué de les faire travailler. Et 7 heures de cours, donc avant les vacances, je me dis « Bah voilà, c'est les vacances, je vais en profiter pour les faire un peu lire. » Donc j'avais pris « Vendredi ou la vie sauvage » de Michel Tournier, qui est un super bouquin en plus, et enfin je pensais que ça pouvait leur plaire. Donc je leur dis qu'il y a ce livre à lire pendant les vacances et qu'il y aura un questionnaire de lecture. Et là, vraiment, levée de bouclier, mais que n'avais-je pas dit, quoi. C'était vraiment la révolution. Quoi, madame ? Et vous pensez qu'on a que ça à faire pendant les vacances ? Mais on va pas lire un livre, madame, et moi je lis pas de livre. Hein. Non, mais moi jamais je vais lire votre livre. Quoi, il y a un questionnaire ? Mais enfin, vraiment, c'était la révolution totale. Enfin, je m'attendais pas à ça. Autant je savais qu'ils aimaient pas travailler avec moi, autant vraiment là, j'avais vraiment l'impression de leur demander un truc insurmontable, et ça m'a vraiment choquée en fait. Et en filigrane de cette agitation, de ce refus catégorique, il y avait Amir et deux de ses copains au premier rang qui faisaient des commentaires sur moi. Eh, madame, vous avez acheté où vos Louboutins ? J'étais en basket. Madame, vous avez des bagues ? Vous me copiez en regardant mes bijoux ? Voilà, ils étaient au café du commerce et ils taillaient une petite papote sur la nana qui était devant eux, quoi. Le problème, c'est que c'était moi et que j'étais leur prof, donc je l'ai assez mal vécu. Et là, c'était vraiment... d'un côté, je devais gérer tous les élèves qui se révoltaient et qui refusaient complètement de lire ce livre que je leur demandais de lire. Puis de l'autre, il y avait les relous du premier rang qui se faisaient un malin plaisir de me déstabiliser en me scrutant de la tête aux pieds. Ce rejet qu'ils avaient du simple fait de faire un livre, je l'ai hyper mal vécu. J'étais tellement déçue pour eux, quoi. Enfin, tellement, je trouvais ça tellement triste qu'à 12 ans, on vous dise lis un livre pendant tes 2 semaines de vacances et que ce soit, mais non, quoi, la réaction quasi unanime. Et moi, à cet âge-là, tu me donnais un livre à lire, j'en réclamais 3 autres. Donc, c'est un peu, ouais, cette distance entre comment ils réagissent, eux, quand on leur donne un livre à lire et comment tous les petits collégiens dans les collèges de France et de Navarre sont en train de prendre de l'avance sur eux. Et ça m'a fait trop de peine pour eux. Et puis c'était un aveu d'échec pour moi aussi, je pense. Enfin, le fait de dire, mais j'arrive pas avec eux, quoi, ça passe pas. Donc j'étais à la place où je suis tout le temps, debout devant le tableau face à la classe. Et là, j'avais vraiment l'impression d'avoir un bloc contre moi, avec les petits pépiments du premier rang bien déstabilisants. Et là, je sais plus pourquoi, je me penche, peut-être que je voulais ramasser un truc ou prendre un papier à leur donner. Je sens les larmes qui commencent à monter. Et ça m'était jamais arrivé, je pense, d'avoir les larmes qui montaient, et j'aurais pu les retenir. Et puis je me suis dit, allez quoi, enfin ça va leur faire les pieds aussi. Enfin, ils vont voir dans quel état ça met, en fait. Ils vont voir que je suis pas dans la confrontation pour parce que ça me fait plaisir. Ça ne me fait pas plaisir, cette situation, quoi. Donc j'étais un peu penchée là quand les larmes ont commencé à couler. Et il y avait un de mes élèves au premier rang qui le voit tout de suite et qui me dit « Madame, ça va ?» Enfin, qui me tend un mouchoir, je crois. Et du coup, je lui dis « Non, mais c'est bon, ça va, merci, je me débrouille, je suis une grande fille. » J'avais pas envie qu'il vole à mon secours juste après, en plus, m'avoir critiqué ouvertement sous mes yeux. Et puis, je me redresse pour leur parler. Et donc là, le reste de la classe voit dans quel état je suis. Et du coup, j'ai décidé un peu de laisser couler ces larmes et de pas les cacher aux élèves, alors que, enfin, vraiment, on m'aurait dit au début de l'année, tu vas pleurer devant tes élèves. J'aurais dit, oulala, non, jamais, jamais, jamais. Enfin, je vais être foutue après si je fais ça, quoi. Et en fait, là, au point où on en était, enfin, au point où je me sentais avec eux, donc du coup, j'ai pleuré devant eux. Là, c'était, voilà, là, je m'étais vraiment laissée à visage découvert devant eux. Je leur disais, non mais en fait, je suis vraiment triste de votre refus et je suis inquiète aussi. Parce que là, vous êtes en cinquième, si vous ne lisez pas le moindre livre, enfin vous allez avoir des gros problèmes derrière. Si vous passez le bac de français et que vous prenez pas l'habitude de lire, vous allez juste pas être au niveau. Et il y a plein de gamins dans plein d'autres écoles dans les beaux quartiers, je peux vous dire qu'ils lisent, et je peux vous dire qu'ils lisent les livres que leur prof les donne, je peux vous dire qu'ils lisent des livres à la maison. Donc faut s'y mettre, les gars, c'est vraiment important. Je dis pas ça pour vous pourrir la vie, je dis ça parce que je pense que c'est nécessaire dans votre parcours d'élève, et je pense que vraiment vous allez en avoir besoin. Certains ont un peu encaissé le coup, je sais pas, ils m'en ont pas reparlé après, donc je sais pas à quel point ils ont entendu ou ils ont compris ce que je voulais dire. Mais en tout cas, à très court terme, à la fin de cette heure-là, je leur ai dit, bon, la lecture du livre reste obligatoire, le questionnaire reste obligatoire, ce sera noté, les livres sont sur mon bureau, je vais pas vous forcer à les prendre. Donc voilà, sachez-le, c'est obligatoire. Vous les prenez si vous voulez. Et ils ont tous pris le livre. Ils sont tous venus à mon bureau de manière assez désordonnée pour prendre le livre. Et je pense qu'ils voulaient un peu aussi clore cet incident de... Bon, enfin, on veut pas que la prof, elle se mette dans des états comme ça, donc on va lui prendre son livre, quoi. On va lui prendre si c'est ça qui compte tant. Donc je l'ai pas vécu comme une victoire. Je l'ai vécu comme... Bah voilà, il y a au moins ça, quoi. Il y a au moins ça, ils ont au moins compris que c'était important pour quelqu'un. Et puis, ils en font ce qu'ils veulent, vu que visiblement, j'arrive pas à les faire rentrer dans ma manière de penser.
École amère, c'est un reportage de Delphine Saltel réalisé par Cécile Lafont. Merci à Capucine Collin, à Sarah Belladi, Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, c'est notre stagiaire.
Guérir ma colère avant d'aller plus loin. Sourire sur cette terre. Les herbes folles, où est-elle la main amie qui vous fait tout oublier?